Avec nous, Vincent François, que je suis très content de retrouver, lui qui est expert en accessibilité numérique, fondateur de Consultation Boréal. C'est joli comme nom, Vincent. Rebonjour. Ça fait longtemps que toi et moi, on s'est croisés.
Ben oui, effectivement, c'était l'été, on buvait, je crois, en tout cas, c'est
Oui.
ce qu'on faisait croire aux
Oui,
auditeurs.
non, mais, oui, il y avait du mojito, il y avait. Oui, non, c'était le bon vieux temps. Anne-Laure,
Oui.
toi, ton téléphone cellulaire, est-ce que parfois tu utilises certains ajouts qui sont là pour l'accessibilité parce que ça te sert à quelque chose? Je pense surtout à VoiceOver ou à Siri que tu peux peut-être.
Non,
Non, hein?
j'avoue, moi, c'est très limité comme
Beaucoup de voyants
utilisation.
n'utilisent pas Siri.
J'en
C'est.
connais. Ouais.
OK.
Mais c'est vrai, là, moi, j'étais au téléphone avec la directrice du RAFO, regroupement donc en Outaouais pour les personnes en situation de
Malik
handicap.
Baudouin.
Oui, puis
Ouais.
elle me disait, mais l'accessibilité des téléphones cellulaires, c'est vraiment infernal. On vous a invité, Vincent, on voulait en savoir un peu plus. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, effectivement, il y a toujours des problèmes, mais on a fait des énormes progrès depuis le début des téléphones cellulaires. Il faut vous dire que c'est à peu près 10 ans qu'on a des téléphones dans nos mains et que c'est un outil extrêmement utile à bien des égards, qui est très polyvalent, qui est assez ergonomique finalement, qui est disponible en tout temps. Surtout quand on le compare dans ses fonctionnalités à un ordinateur où il fallait aller s'asseoir devant un bureau, éventuellement le démarrer. Il y a combinaisons de touches, il y a la manipulation de la souris, il y a des logiques aussi qui n'étaient pas nécessairement celles de toute la population. Et c'est des petits écrans, donc on s'est pas mal simplifié aussi les interfaces. Donc, comme il est très présent dans nos vies, forcément, quand ça marche pas très bien, eh ben, ça nous gêne, hein. C'est-à-dire
Beaucoup.
que c'est. Donc ça amplifie le problème. Mais il faut voir aussi que cette amplification vient du problème, parce qu'on les utilise beaucoup. Mais dans le passé, il faut voir que les premiers téléphones intelligents, ou plus ou moins intelligents, comme on disait, qui étaient destinés aux personnes en situation de handicap, étaient surtout faits pour eux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans des outils qui sont plus généralistes. Et sur lesquels se greffent des applications, se greffent des modes de fonctionnement, des fonctionnalités, et qui vont rétablir, qui vont réassurer l'accessibilité de ces outils-là. Donc on a moins d'outils qui sont dédiés à ça et d'applications particulières. On a des outils plus généralistes. Et cette généralisation va au-delà. Quand on voit le téléphone comme une prolongation de l'ordinateur, bon, ben, il y a tout ce que je viens de dire juste avant, mais ça devient aussi des outils qui permettent à des personnes handicapées de sortir de chez elles, de se faire accompagner. C'est aussi une carte mobile, c'est aussi un GPS dans la poche, c'est aussi la possibilité d'avoir des descriptions de différents lieux géographiques au moment où on les aborde,
Ça,
alors
c'est
qu'on peut avoir changé.
principalement pour les personnes, excusez-moi, qui ont des limitations sensorielles,
Oui, exactement.
visuelles.
Oui. Donc, il y a tous ces avantages-là qui viennent dans nos petits outils. Et puis, ils viennent aussi eux-mêmes avec tout un tas de fonctionnalités. Par exemple, pour les limitations visuelles, on a la possibilité d'agrandir les caractères, d'agrandir les zones de l'écran. Il y a la synthèse vocale qui vient maintenant de plus en plus avec ces appareils-là. Il y a aussi des outils de commande vocale.
Oui, tout à fait.
On parle de
Scanner
micro.
également.
Pardon?
On peut scanner.
Alors on peut scanner, c'est-à-dire qu'on peut lire un document à travers son appareil vidéo, ça devient des caméras vidéo. À ce moment-là, un logiciel de reconnaissance de caractères va se charger de lire les caractères dans ce qu'on viendra lire, et puis va les reprononcer à voix haute pour un utilisateur qui a des difficultés de lecture. Entre les deux, on peut loger un logiciel de traduction aussi. Donc on
Ouais.
peut passer son téléphone sur un texte dans une langue qu'on ne connaît pas et en avoir une traduction automatique. En même temps, ce qui fait qu'on a tout un tas de fonctionnalités comme ça qui sont très importantes.
Et qu'est-ce qui reste à faire, par contre, parce que tu
Alors,
disais, bon.
ce qui reste à faire, c'est comme tout, c'est comme avoir une bonne loi pour éradiquer un certain comportement. Bon, ben, quelquefois, il faut la faire appliquer, la loi. Donc, on a des outils qui sont meilleurs qu'avant. On a des façons de faire de programmation pour l'accessibilité qui sont de plus en plus faciles, mais entre les deux, eh ben, il y a des humains qui ont des intérêts économiques, qui ont des incompréhensions du problème, qui ont d'autres choses à faire dans leur journée que s'intéresser à l'accessibilité. Et puis parfois, on n'a pas nécessairement la coercition, parce que c'était le sujet d'avant, nécessaire pour donner le coup de bâton qui viendrait avec la carotte pour avancer. Donc c'est ça. Actuellement, les
Mais tu
principaux
voudrais voir
blocages sont
quoi dans le
ça.
téléphone? Qu'est-ce que tu voudrais voir modifier pour qu'il devienne encore plus accessible?
Quoi, les obstacles
Ah,
encore
ouais.
aujourd'hui?
Pour moi, les obstacles, c'est surtout le fait que les programmeurs, les concepteurs et les gens qui les payent se soucient pas nécessairement nativement du problème d'accessibilité. Pour moi, c'est vraiment ça sur lequel il y a les gains les plus faciles à faire. Après, la technologie, à la limite, je suis pas nécessairement le mieux placé pour imaginer ce que pourrait donner la technologie, parce que moi-même, j'ai un téléphone, je m'en sers quotidiennement, mais si je l'avais pas, j'arriverais à passer ma journée autrement. Ça me limite pas de pas avoir mon téléphone dans la poche. Je suis pas un millénium, j'ai mis du temps à en avoir un, j'ai même résisté longtemps parce que je travaillais énormément et mon ordinateur portable m'occupait déjà beaucoup l'esprit. Je me suis dit, avec ça, c'est la mort.
Mais quand même, là, on parle d'accessibilité, mais c'est surtout pour les personnes ayant une déficience visuelle. Là, pour les personnes qui ont une limitation physique, c'est accessible. Hein,
pour les limitations, c'est-à-dire que les problèmes ne sont évidemment pas les mêmes. Pour les limitations motrices, on a des fonctionnalités qui vont aider, par exemple, les personnes qui ont des difficultés à tapoter sur leur écran. La possibilité, par exemple, d'attendre que l'appui soit plus long pour considérer qu'on a appuyé, ou l'inverse. On peut avoir des situations de pilotage par le regard. Donc ça commence à être un petit peu plus... Mais j'ai vu des démonstrations impressionnantes. On n'est plus dans des systèmes compliqués avec 3 caméras qui regardent le visage ou qui regardent la pupille de l'œil et puis qui regardent qui reflètent un rayon. On a des outils. Et avec un téléphone cellulaire, je l'ai vu, moi, il y a un an ou deux en Californie, on se met devant le téléphone, on bouge la tête et à ce moment-là, il y a un pointeur sur l'écran qui va aller se déplacer. Et donc ensuite, en clignant des yeux, en faisant un petit mouvement de mâchoire, il y a des choses comme ça. Ça, c'est quand le téléphone nous regarde. Mmh. C'est-à-dire qu'il a une captation, il est capable de modéliser notre regard, notre visage, et de décider dans quel angle il fait. Il y a aussi des petits équipements qu'on met qui ne sont pas plus gros qu'un petit appareil auditif qu'on colle à l'oreille, et qui vont lire les mouvements des muscles de la joue, et vraiment des points d'attache vers l'oreille, s'il y en a, parce que je ne sais pas très bien comment c'est fait en dessous. Et donc, suivant les mouvements infimes de visage à cet endroit-là, il va être capable de détecter ce qu'on fait avec le reste du visage.
Wow.
Et donc, d'en tirer des conséquences. Et puis, il y a aussi le suivi des yeux qui se fait encore et qui permet aussi de pointer. Donc ça, on a ces possibilités-là qui sont plus que des prototypes, mais qui ne sont pas encore tout à fait nativement dans tous les appareils.
Est-ce qu'il y a des bons élèves parmi les opérateurs, enfin les fabricants ou les...
Alors, ça a pas mal fusionné. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde le lecteur d'écran, donc le lecteur qui lit à voix haute le contenu de notre écran, VoiceOver, qui marche sur les machines iOS de Apple, était loin devant pendant longtemps. Et puis maintenant, chez Android, ils ont un outil qui s'appelle TalkBack, qui fait le même travail avec des logiques légèrement différentes et qui donc permet de savoir où on en est quand on ne voit pas l'écran et qui aujourd'hui atteint des résultats très très... en tout cas, pour moi qui ne fais que tester ces équipements, je le trouve très satisfaisant. Je n'ai pas à l'utiliser au quotidien, donc je n'en connais pas les irritants particuliers. Mais tout ça converge vraiment vers le mieux.
D'accord. Intéressant. Bientôt, on va avoir une puce, de toute façon, programmée, reliée à notre cerveau, puis on va pouvoir tout faire. C'est impressionnant les progrès qui sont faits.
Est-ce que vous, au niveau des industries, quand ceux qui regardent l'accessibilité, est-ce qu'on pense qu'il est préférable d'avoir justement des compagnies qui travaillent sur un marché large comme les Apple de ce monde, où on préférait l'époque où on avait des compagnies spécialisées qui vraiment s'attardaient et comprenaient le problème, mais avec moins de financement derrière.
Voilà, c'est ça le danger. C'est que quand Microsoft ou Apple, pour citer que ces deux-là, s'intéressent à l'accessibilité, on sait qu'ils sont capables de mobiliser des moyens, des équipes, des compétences, et qu'en plus, les résultats qu'ils vont obtenir vont se retrouver multipliés dans tous leurs produits qui inondent le marché depuis des décennies. Donc ça, c'est très important que ces gros joueurs agissent, et ils agissent d'ailleurs.
Moi, je trouve ça fabuleux parce que, j'ai un JAWS qui est une revue d'écran sur mon ordi, et souvent, je vais ailleurs, puis les gens disent « Bon, tu veux utiliser mon ordi ?» Puis je leur dis « Je peux pas. » Mais je peux aller chez une amie prendre son iPad.
Voilà.
Et c'est comme « Ben ouais, c'est fabuleux. »
Ah ouais. Alors bon, là on est dans deux cas différents. Jazz est un logiciel payant qui marche que sur Windows. Sur iPhone, on trouve un VoiceOver qui est gratuit, en tout cas qui fait partie du prix de la machine. Donc du coup, il y a une disponibilité. Si on a cet appareil-là, alors on l'a nativement. Mais c'est vrai qu'un des progrès du téléphone par rapport à l'ordinateur, c'est cette disponibilité de l'outil et cette plus en plus facile d'en attraper.
D'ailleurs, vous nous disiez que dans certains pays, les iPads sont remboursés par
ça commence. Alors, ouais. J'ai lu ça sans avoir de référence très, très proche, mais c'est vrai que ce conflit entre l'équipement qui est fait pour une personne aveugle qui se déplace et un téléphone bien configuré avec quelqu'un qui sait s'en servir, ben ça fusionne les deux. Donc, on revient à cette question de savoir est-ce que c'est des produits niche avec des gens qui comprennent bien les problèmes, qui sont bien dans la communauté des personnes qui vont les utiliser, ou est-ce qu'il faut prendre des produits plus généraux qui vont être avec tout ce que ça veut dire de puissance économique et marketing derrière. Je suis bien incapable de trancher le débat, mais j'ai quand même l'impression qu'on va vers cette deuxième solution que les petits, entre guillemets, joueurs ont intérêt à tirer, à tisser des partenariats ou à se faire acheter si c'est leur
choix. On achète les brevets. Puis
éventuellement, mais en tout cas, ne pas mourir de par la taille, mais survivre de par l'originalité et, le côté pointu de leur expertise.
Merci Vincent-François.
Merci.
Bienvenue.
Alors, est-ce qu'on lit les commentaires ou on écoute la lecture d'abord? C'est ton show.
Bah oui, c'est vrai, c'est mon show. Écoute, moi j'ai pièce musicale d'abord, petite chanson.